Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Zinc sur Radio Clapas, Divergence FM et Radio Grille Ouverte. Marie-Pierre Soriano aux commandes de ce nouveau numéro de votre hebdo tête chercheuse d'émotion en terre d'art et de culture. Le Zinc, c'est chaque semaine une heure que nous passons ensemble. Et ensemble chaque semaine, nous partons explorer ce que les artistes d'ici d'ailleurs et de tous les genres nous offrent de meilleur. Pendant qu'on nous balance le coup des garden parties de l'Elysée tout en nous imposant de travailler encore plus d'annuités parce que c'est la crise, évadons-nous au moins une heure et rêvons gratos, juste ma voix dans le micro au creux de vos oreilles. Au sommaire cette semaine, première escale, présentation des derniers albums sortis dans les bacs des disquaires. Je commencerai par vous causer du très lourd et très roqueux Sea of Cowards, qui est le dernier opus de The Dead Weather. Évidemment, après la chronique, un extrait de cet album sera en écoute, alors ne bougez plus, c'est un conseil. Puis nous tournerons vers celle qui possède la classe et la grâce éternelle, soit la grande Madame Françoise Hardy. Son dernier album à elle s'intitule La pluie sans parapluie, et c'est avec un grand parapluie plaisir que nous nous mouillerons ensemble. Nous bouclerons cette première escale par la découverte de, et l'écoute aussi, de This Thing's Happening, qui n'est autre que le dernier bijou des géants de LCD Sound System. James Murphy, le leader, annonce une retraite proche, une séparation du groupe, et en même temps il nous tend ce monument de glam pop. Alors info intox, comme disait l'autre, affaire à suivre d'ici une poignée de secondes. En seconde escale, je vous proposerai un roman hilarant, pour être tout à fait juste. Et somme toute, ce n'est pas si souvent que l'on tombe sur un roman vraiment très drôle. Je vous parlerai donc du dernier roman de Jean-Marcel R. Il s'agit de Série Z, paru chez Buchet-Chastel. Interview de l'auteur à suivre, ne bougez pas. Enfin, ce printemps qui éclate et qui annonce l'été est attendu. Je ne peux pas passer à côté de l'agenda bon plan en tout genre.
Hazy.
venez d'entendre un extrait du dernier album des Coco Rosie. Elles étaient dans le cadre du K-Live au Théâtre de la Mer le vendredi 4 juin dernier. Et ce que je peux vous en dire, c'est que ce fut un concert immense, intense en émotion, et que ces deux-là, accompagnés de leur pianiste, de leur percussionniste et de leur human beatbox de 2 mètres de haut, inventent toujours un peu plus pour nous une fuite splendide et irréelle qui défie les lois de la pesanteur et de la gravitation. Elles inventent carrément une musique billée pour ailleurs, loin, très loin de nos vérités et de nos quotidiens. Ajoutez à cela la magie du Théâtre de la Mer un soir de printemps très chaud et le bonheur est total, l'émotion aussi. Sans transition et pour rester dans nos bulles musicales, il est temps pour moi de vous causer du dernier album de The Dead Weather, publié moins d'un an après Our Hound. Son successeur, Sea of Cowards, ne réinvente pas le fil à démarrer la tondeuse rouillée. Même ton, entre blues, encre de Chine et crasse de centrale à charbon, mêmes évidentes influences des années 70, efficaces, bouillantes et crasheuses comme un volcan Ikea, n'empêche, les quelques mois qui ont séparé les deux albums, The Dead Weather n'est pas demeuré totalement immobile. Le premier disque n'était que la jam initiale, l'enregistrement presque involontaire de trois surdoués musculeux et d'une bad girl. Les trois garçons et la fille ont depuis appris à démultiplier et à affiner leurs possibilités, à aller un peu plus loin dans chaque domaine. Comme annoncé par White, Sea of Cowards est plus lourd, plus rugueux, plus abrasif, plus puissant, plus sobre quand il joue l'arrache austérité, mais bien plus joueur quand le groupe se pique de sortir des micro-sillons du rock diesel. Il multiplie les effets étranges sur les voix, tente des rythmiques plus osées, roule des grosses mécaniques plus démentes, plus abouties, mieux conceptualisées. Il est enfin encore plus démonstratif sexuellement. De la luxure en bar, de la luxure en bouteille, un cauchemar pour le Vatican, trois garçons au corps caverneux gonflé jusqu'à la rupture, jouant dur autour de la bombe charnelle Allison. Non, Sea of Cowards n'est pas radicalement différent de leur premier album, il est juste plus, et il vaut quand même que l'on s'y attarde. You found me. I'll never heal my. Voilà, c'était pour vous. On écoute un extrait du dernier album de The Dead Weather. Vous êtes toutes et tous mes invités à bord du Zinc sur Radio Clapas, Radio Grille Ouverte et Divergence FM. Pour poursuivre notre escale première et musicale, il est temps, comme prévu dès le sommaire de l'émission, de nous arrêter sur le dernier album de Françoise Hardy. Son 26e album s'intitule La pluie sans parapluie. Les années passent, ma pauvre Lucette, et Françoise Hardy, grande dame, passe entre les gouttes. Il est de saison, ce disque, il sent vraiment le printemps, l'éclaircie, un réveil d'essence, encore engourdi par les frimas de l'hiver. Mythique ermite, Françoise Hardy n'a jamais été hermétique. Elle a confié une partie de la composition de son nouvel album à des auteurs aussi divers que Murat, Calogero, la grande Sophie, Arthur H. et quelques autres encore. Pour la réalisation, option French Variety, elle retrouve le fidèle Alain Lubrano. Et finalement, ça n'a aucune importance car sur le fond et la forme, c'est Françoise Hardy qui tient le manche du parapluie. Ici donc, un déroulé de chansons élégantes et indolentes, à la fois intimes et opaques, chantées d'une voix au grain inimitable. Rien de surprenant, mais rien de décevant non plus, et quelques ravissements mélancoliques en prime. Sa voix est un instrument intime qu'elle maîtrise et dont elle use pour exprimer toutes les nuances d'un texte ou d'un sentiment. Françoise Hardy peut se permettre de chanter « Je ne vous aime pas », elle sait qu'on lui répond en secret « Nous aussi ».
Je paierai
Voilà, ça c'était pour Françoise Hardy, sans transition aucune, sur scène. Les Parisiens ont pu les voir deux soirs au Bataclan, le Colosse, en particulier James Murphy de LCD Sound System. Ce rival est bien moins bougon que dans les déclarations laconiques qu'il lâche à la presse de temps en temps. En début d'année, en pleine gestation de This Is Happening, le producteur, chanteur et touche-à-tout new-yorkais avait fait part de son envie de dissoudre sa formation après cet ultime disque et ses 40 ans. Au New Musical Express, au Guardian et au Monde, il confie avoir commencer sa carrière sur le tard, se moquer comme de son dernier t-shirt de la célébrité et être conscient des sommets atteints par son groupe, sommet qu'il estime difficile de dépasser à présent. Et il s'agit peut-être là de l'aveu de sa grande lucidité sur sa courte carrière et de sa lassitude aussi. Ajoutons à cela la probable envie de rompre le cercle épuisant de la promotion et des tournées qui se resserrent sur son groupe. Avec ce troisième album, LCD Sound System s'est révélé une formation emblématique et cruciale de l'électro-rock du XXIe siècle, mais aussi le champion indiscutable d'une éternelle sous-division du rock où il restera à jamais cantonné. Drôle de paradoxe pour une figure respectée, admirée et jamais égalée, totalement atypique dans le paysage musical actuel, qui joue la carte de l'autodérision jusque dans le clip du nouveau single Drunk Girls. Le vidéaste Spike Jonze y invente de sales pandas qui investissent le plateau de tournage et malmènent les musiciens alors qu'ils tentent d'enregistrer le clip. James Murphy, c'est avant tout un producteur de génie à travers son groupe et son label DFAI et un DJ fou du disco dans sa ville de New York, de post-punk et de new wave de tous horizons. Et leur dernier album qui s'intitule This Is Happening et qui se trouve être un exploit de dance matinée de glam est à l'image de son géant chef d'orchestre.
Make it easy.
c'était LCD Sound System avec un extrait de This Is Happening, leur troisième et dernier album. Vous êtes bien sur Radio Clapas, 93.5 FM à Montpellier, sur Divergence FM, 93.9 à Montpellier toujours, et sur Radio Grille Ouverte, 88.2 FM, mais à l'Est cette fois. Vous êtes à bord du Zinc, et notre première escale bouclée, je passe volontiers pour vous à la seconde. Et dans le sommaire, je vous l'ai annoncé, il s'agit cette semaine d'une escale littéraire. Figurez-vous que chaque année, la Comédie du Livre, même si je tairai ici ce que j'en pense de cet événement, nous apporte son lot de bonnes surprises. Cette année, ce fut l'occasion pour moi de rencontrer un bien drôle de roman, ou plutôt un roman bien drôle, et son auteur. Je veux vous parler ici de Série Z de Jean-Marcel R, paru chez Buchet-Chastel. Pour la petite histoire et pour faire court, Félix est le numéro 1 de la loose de l'anti-héros par excellence, sauf que quand même, il a une passion. Les films de Série Z, d'où le titre. Il est marié à Sophie, qui est aussi efficace et brillante, engagée et active que ce qu'il est passif, et qui en plus, elle, est prof. Il a aussi une sœur, Marie-Jo, médecin urgentiste qui est toute, elle le pousse à retirer ses doigts de son bip pour accepter de grandir et de se mettre au boulot. D'autant qu'en plus et maintenant, Félix et Sophie ont une fille, Zoé, âgée d'1 an, et qui persécute Félix dans la pure tradition de toutes les femmes de sa vie, sa propre mère y compris. Bon, ceci étant, Félix vit tranquille quand elle va que toutes à leurs occupations, et il alimente un blog sur sa passion, le cinéma, donc de Série Z. Donc, il tient une sorte de carnet intime qui est en fait et en vrai un carnet censé le rassurer au cas où, après le sommeil, il aurait tout oublié. Et figurez-vous qu'un jour, un producteur le contacte car il est intéressé par son dernier scénario. Sauf que le scénario en question possède de drôles de pouvoirs, notamment celui de dévoiler les étapes d'une intrigue qui a lieu, en vrai, dans une maison de repos pour acteurs et comédiens à la retraite. Félix, en déposant son scénario, va en fait poser les deux pieds dans une aventure rocambolesque, hilarante et totalement foutraque, de laquelle il ressortira grandi, bien sûr, mais à ce stade-là, je ne peux plus rien vous dévoiler du tout. Écoutons donc plutôt Jean-Marcel R, himself, présent à la Comédie du Livre de Montpellier. Jean-Marcel R, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Série Z est votre troisième roman. Comment est née votre histoire avec l'écriture ?
Alors, l'histoire de l'écriture est née il y a maintenant 5-6 ans où j'ai commencé à écrire un premier roman, un policier humoristique. J'avais pas du tout l'idée de le faire publier. Donc c'est un hasard de circonstances qui a fait que ce premier manuscrit a été publié. Depuis, l'aventure continue.
Partagez-vous avec Félix cet engouement pour les films de Série Z et comment vous est venue l'idée du récit ?
Oui, l'idée du récit est venue vraiment de la volonté de rendre hommage à un genre que j'aime beaucoup, les films de Série Z, le cinéma bis plus largement. Donc des films de genre, des films à petit budget, mais souvent des films un peu ratés, mais beaucoup de chefs-d'œuvre aussi à découvrir.
Les femmes dans votre roman ont toutes quelques caractéristiques communes, comme celle de prendre beaucoup de place et d'être un chouïa castratrice. Vous réglez un compte là ?
Je ne pense pas régler un compte, mais peut-être à travers ça, on découvre des choses sur soi-même, en tout cas, peut-être. C'est une comédie, donc dans les comédies, forcément, on met en place des systèmes très, très à la limite de la caricature et pour jouer sur le décalage.
Complètement, mais je pense aussi qu'avec l'humour, on fait passer finalement ce qu'on a au fond du bide.
C'est possible, c'est à réfléchir.
Est-ce que cela a été difficile pour vous, au niveau de l'écriture, de soutenir tout du long le rythme de la narration, qui est quand même effréné, quoi ?
L'idée, voilà, c'est vraiment de jouer sur le rythme. Hein. C'est un roman qui fonctionne par courte séquence. Il y a un montage très rapide, si on prend un vocabulaire de cinéma. Et l'idée, c'est d'entraîner comme ça le lecteur dans un rythme qui ne lui laisse pas vraiment de répit. D'ailleurs, il y a certains moments où je suis obligé de réfléchir à comment faire des pauses. Il y a même des pauses, des entractes dans le roman. Parce qu'il y a un rythme qui parfois peut être trop entraînant. Donc tout est dans le dosage du rythme. C'est l'élément le plus important du roman. Oui.
Dans le même ordre d'idée, comment avez-vous conçu et suivi ce grand découpage justement avec le récit de la vie de Félix, celui des galachus, l'hospice, le blog, le scénario du film ?
Alors ça se fait au départ de façon totalement hasardeuse, c'est-à-dire que je ne fais aucun plan de départ, il n'y a pas d'architecture du roman, je pars sur une idée, je ne sais pas où elle va me mener et c'est ça pour moi l'intérêt de l'écriture. Voilà, je pars et je fonctionne comme un puzzle, je mets des pièces un petit peu partout, il faut qu'à la fin ces pièces elles tiennent ensemble. C'est le défi de mon écriture.
Il y a aussi les apparitions du lecteur. Est-ce que c'est là une façon pour vous de vous justifier, de vous dédouaner en fait ? Il a quel rôle le lecteur dans votre vie ?
Voilà, exactement. Il y a un lecteur qui suit l'intrigue. Il est arrivé tout à la fin du roman, c'est-à-dire de l'écriture. Quand j'ai fait lire ce manuscrit à des proches, il y a certaines scènes qu'ils ont trouvées trop outrées, trop caricaturales. Et donc j'ai eu l'idée, parce que je n'avais pas envie de les couper, de faire un contrepoint avec un lecteur qui allait lui-même finalement ressentir l'outrance, qui allait parfois avoir envie de le laisser ce livre et puis finalement de le reprendre parce qu'il y avait des choses qui le tenaient. Et il me semblait que ça équilibrait finalement et ça venait faire un contrepoint à des scènes parfois un peu trop poussées, un peu trop fortes dans la caricature.
Voilà. J'imagine que vous êtes l'auteur qui donne des palpitations aux éditeurs. Vous voyez quand même, vous parliez de dosage. Et de, au niveau de la vraisemblance, quand vous leur remettez un manuscrit, ils doivent quand même un petit peu être...
C'est vrai que c'est vraiment à la limite. Alors on entre dans cet univers ou on n'y entre pas du tout. Oui. Beaucoup d'éditeurs, d'ailleurs, les premiers manuscrits l'ont refusé en disant que c'était vraiment trop outré, trop farfelu, trop loufoque, ça passait pas, quoi. Et puis, il y a une éditrice qui elle-même est romancière, qui s'appelle Pascal Gauthier, qui écrit des romans assez décalés et finalement qui a aimé ce genre-là. Et chez Buchy-Chastel, il y a plusieurs auteurs comme ça, un peu dans cet univers. Et bon, la preuve est faite que ça trouve son public. Il y a des gens qui finalement découvrent que c'est un genre qui n'est pas du tout représenté en France, qui est beaucoup plus représenté chez les anglo-saxons, qui y a un humour anglo-saxon qui va plus loin dans le délire qu'en France, où on est beaucoup plus cartésien finalement, même dans l'humour. Et ça marche plutôt bien.
Alors on en parlait tout à l'heure, sous prétexte de comédie, vous abordez quand même d'autres sujets que celui du cinéma déjà, celui de la vieillesse et celui des néo-combats, c'est-à-dire cette espèce de course effrénée à l'écologie, à la non-commercialisation et tout ça, c'est quelque chose que vous dénoncez, c'est une époque que vous dénoncez ?
Non, il n'y a pas de dénonciation, mais le personnage qui est au centre du roman, Félix, c'est un personnage qui a énormément de mal avec son époque, c'est-à-dire c'est une époque où on demande de nous engager dans plein de choses, de prendre position. Voilà. Félix a énormément de mal à prendre position. Lui, son univers, c'est un univers de rêve, de création, un univers ludique. Il est dans la fiction en permanence. Et devoir prendre des décisions dans le réel, devoir s'engager, c'est difficile. Et comme il vit avec une femme qui, elle, au contraire, est extrêmement engagée, c'est une enseignante, militante associative, etc., il y a ce décalage entre les deux. Et c'est aussi un roman d'apprentissage. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à l'extérieur, à la réalité, et au-delà bon, du délire, il va quitter un peu la fiction pour assumer le réel et vivre concrètement dans le réel. Il n'y a pas de dénonciation après de notre époque en particulier. Non.
Alors vous êtes professeur et dans quel registre de la littérature vous avez été puiser vos influences?
Ah oui, c'est vraiment un roman d'apprentissage. Hein, avec et ça, on s'en perçoit aussi après. Les trois romans que j'ai faits, à chaque fois, c'est un personnage comme ça qui va franchir les étapes et grandir au cours. Exactement.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc c'est, là aussi, c'est assez intéressant avec le recul de voir quelles sont les idées qui viennent, hein, et les points communs qu'il peut y avoir. Donc c'est forcément quelque chose qui
vous
m'intéresse.
Cérise est un roman vraiment hilarant, je tiens à le redire. J'ai étouffé pour ma part des fous rires dans le train et sur mon lieu de travail. Vous vous êtes amusé en l'écrivant ou cela reste-t-il, quoi qu'il arrive, un exercice douloureux?
Non, c'est pas du tout un exercice douloureux, c'est vraiment un exercice de plaisir. Pour moi, c'est le moteur d'écriture, c'est vraiment le plaisir. Je m'amuse énormément en écrivant et sinon je pense que je ne le ferais pas. C'est-à-dire, c'est un plaisir d'écrire, d'arriver à... C'est le plaisir d'abord de la lecture, c'est-à-dire j'écris comme si j'étais mon lecteur. Je sais pas du tout où je pars dans une scène et j'ai le plaisir de découvrir ce qui peut arriver. Voilà. Donc le plaisir qu'on ressent en le lisant, il vient vraiment du plaisir de l'écriture.
J'imagine que vous avez des projets à ce stade-là de votre bibliographie. Est-ce que vous avez envie de rester dans le même ton ou est-ce que vous auriez envie de passer à toute autre chose?
Le ton va rester le même. Là, je suis en train d'écrire un nouveau roman. Mais si le ton reste le même, par contre, l'intrigue est différente. Et là aussi, je m'en aperçois avec le recul. Et là, pour la première fois, il n'y aura pas de roman d'apprentissage. On ne suit plus un personnage qui va grandir. C'est terminé. Donc, il y a certainement un cycle qui s'est terminé.
Ouais.
J'ai grandi, ça y est. Et donc, je passe à autre chose. Mais bon, c'est encore au stade des premiers pas. Donc, je ne peux pas trop en parler.
Votre roman est accompagné d'un blog, comme celui que tient Félix, c'est d'ailleurs le même blog, ainsi que d'une page Facebook. Pensez-vous que désormais, le rôle des auteurs, des éditeurs ou des chargés de com d'auteurs soit de gérer ce genre d'intégration dans le maillage social 2.0?
Ça prend une importance très très grande. C'est la première fois, c'est pour les deux autres romans, ils ne l'avaient pas fait. La maison d'édition, cette fois, ils ont vraiment investi beaucoup dans ce domaine-là. La maison d'édition a créé donc le blog Dr. Z, ils ont créé une page Facebook qu'ils entretiennent, c'est l'attaché de presse qui entretient ça. Ils ont contacté beaucoup de blogueurs, de blogueuses surtout, à qui ils envoient des livres. Il y a une vraie reconnaissance de ce milieu-là comme l'avenir apparemment de la promotion en littérature.
Et est-ce que finalement, vous, en tant qu'auteur, vous trouvez dans un état de dépendance de ce que peuvent... Justement, ce sont des endroits qui permettent au lecteur de réagir. On a vu dans votre roman que le lecteur avait une place importante pour vous. Est-ce que vous allez goulûment consulter ce qui se dit sur votre roman ?
Alors, je vais voir, oui, sur les sites régulièrement. Moi, je n'ai pas de blog, je n'ai pas de site, mais j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, justement, avec ce passé Facebook, ça m'a ouvert à des univers que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné beaucoup d'idées, d'ailleurs, pour un prochain roman.
Oui. Il serait particulièrement important de faire une version numérique de série Z, où on pourrait, par exemple, intégrer de vraies scènes de films, en fait. Est-ce que vous vous sentez prêt pour l'aventure du livre numérique ?
Oui, je pense que c'est plus un problème d'éditeur que d'auteur, l'aventure numérique. Pour l'auteur, je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose dans sa façon de construire ses romans. Par contre, les éditeurs, manifestement, craignent ce passage-là. Il y a une vraie peur.
Appréhension, ouais.
Et ouais, par rapport à ce passage-là, je vois pour l'instant, en tout cas chez Bûcher-Chastel, mes maisons d'édition, il n'y a pas de possibilité d'acquérir le livre sous forme numérique.
Mmh.
C'est le début de la réflexion.
Jean-Marcel Herr, merci beaucoup.
Merci.
Go take me out to the movies. I'd rather stay home and relax. I'll tell you the trouble with movies. It's too darn many popcorn sacks.
Let me take off my shoes and run barefoot through your hair.
Oh, but Charles, I always thought you wanted to...
The big main feature lights the screen. The hero beats the villain back. Then comes the climax of the scene. Rattle, 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 popcorn sack. The mystery picture's in a mess. The cops admit the case looks black. Just when the crook starts to confess. Rattle, 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 popcorn sack. It brought back silent pictures. And that's no gag. The loudest sound department is in the bag. Comes a girl in tights are wrong, cut so in front and low in back. She takes a deep breath for a song. Rattle, 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 popcorn sack.
Jack? Now I'll slug that mug with a popcorn sack.
When Katherine Hepburn speaks her part and gives out high dramatic art.
Or the Calla Lilies will soon be back on the chest of that pest with a popcorn sack.
That scalded butter rattler soon drives you nuts. You must eliminate him. No ifs or buts. It doesn't mean a doggone thing when Mr. Jolson starts to sing. The noise comes from the sky behind. You turn and shoot, you fall down smack. You think now you have peace of mind. Bimbo! Goes another popcorn sack.
Voilà. C'était John Freeze, un véritable compositeur de bandes originales, des films de série Z. Pour boucler notre rencontre avec Jean-Marcel Herr, l'auteur de série Z, que je ne peux que vous recommander de lire, roman paru chez Bûcher-Chastel. Vous avez bien confié vos oreilles aux meilleures radios. Vous êtes bien sûr Radio Grille Ouverte à Alès, sur Clapas et Divergence FM à Montpellier. Vous êtes bien à bord du Zinc et je vous propose tout de suite d'attraper un papier et un crayon. C'est l'heure de l'agenda du Zinc. Alors pour commencer très fort, le 11 et 12 juin, il sera l'heure du grand festival de Rodez, le Skabazak, avec cette année Ragasonic, Cypress Hill, Fefe, Hocus Pocus, Emir Kusturica, le peuple de l'herbe. Le 18 juin commencera le fameux et célèbre Montpellier Danse qui se déroulera jusqu'au 7 juillet. Vous pourrez y voir Merce Cunningham, Anna Teresa de Casemaker, mais je crois savoir qu'il n'y a plus de place, Kader Atou et William Forsythe par exemple, mais aussi un jeune chorégraphe, Fabrice Ramalingam, qui lui présentera Pandora Box, une création, le tout mis en musique par DJ Chloé. J'y serai. Puis sachez enfin que jusqu'au 27 juin se tient au Domaine d'eau à Montpellier, le non moins célèbre Printemps des comédiens, qui cette année s'intitule La Route Cigane. Vous pourrez y voir de la danse, des marionnettistes et de la musique des Indes, des concerts de musique des Balkans, des montreurs d'ours russes, du jazz manouche italien et du flamenco andalou. Et ce sont là que quelques exemples. Regardez aussi, c'est un conseil de très près la programmation du Théâtre de la Mer à 7, parce qu'elle est très très riche cette année, et que par exemple, vous pourrez y voir l'Orchestre National de Barbès, du jazz ou encore Gotan Project le 1er août. c'était Gotham Project. Le Zin, c'est fini pour cette fois. Merci à Quentin de Divergence FM pour la technique. C'était Marie-Pierre Soriano, Comonde. Rendez-vous même heure, même place la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous laisse entre les mains solides de MGMT. Who spends his time, or maybe half of his time, or part of the time wandering round the creeks and cobblestones of Hackney Lanes? With a tear in his eye, as the children walk by, he's thinking of the sound he stops to paint a picture of a friend. Walking around,
station.